Bonjour. Première question toute simple. Vous qui connaissez les arcanes de la diplomatie, est-ce que la situation vous surprend? Est-ce qu'elle vous inquiète de manière générale, tout ce qui se passe pour l'instant dans le monde?
Écoutez, les Européens se sont fait tellement d'illusions après la fin de l'Union soviétique, donc depuis le début des années 90, que c'est plus compliqué pour les Européens d'atterrir dans le monde réel, qui est un monde difficile, marqué par des compétitions très dures, voire par des agressions, voire par des guerres, comme on le voit en Ukraine, plus le compte à rebours écologique, plus... Enfin, rien de ce que pensaient les gentils Européens il y a 20 ou 30 ans sur la communauté internationale ne s'est concrétisé. C'est plutôt l'inverse. Voyez. Donc c'est plus dur pour les Européens.
C'est plus une forme de désillusion auquel on fait face maintenant que de la stupéfaction.
En tout cas, les Européens qui ont été une sorte de bisounours de la géopolitique pendant longtemps sont obligés de comprendre le monde réel dans lequel les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance et de l'influence. Ils ont la richesse et l'influence, mais pas le monopole. Un monde dans lequel, aux Nations Unies, il y a quand même 40 pays qui n'ont pas voulu choisir entre la Russie et l'Occident. Donc, ils n'ont pas condamné Poutine, 40 pays qui représentent plus de 60% de l'humanité. Donc c'est ça le monde réel. Donc tout ce qu'ont cru les Européens avec beaucoup de sincérité, beaucoup de bonne volonté, d'enthousiasme sur le caractère universel des valeurs, sur l'économie mondiale qui, grâce à l'OMC, allait développer tout le monde et rendre les Chinois démocratiques. On croyait ça il y a une vingtaine d'années, vous voyez. Rien de tout ça ne s'est tout à fait concrétisé. Donc c'est assez dur, mais ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas de carte en main, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction à avoir, vous voyez. Mais c'est plus dur pour les Européens, ce que je viens de décrire, par rapport à votre question sur les inquiétudes, que pour les autres peuples dans le monde.
Alors parlons d'éléments d'actualité. S'ouvre ce mardi le sommet de l'OTAN. Là aussi, repositionnement des alliés, réinvestissement aussi. Vous connaissez bien cette institution, vous avez d'ailleurs été chargé par le gouvernement français de réfléchir à son renforcement. C'est un moment clé pour cette organisation, selon vous?
Alors, on peut constater que parmi les erreurs innombrables de Vladimir Poutine, il y a le fait qu'il n'ait pas imaginé qu'il allait réveiller l'esprit de défense en Europe, qui avait disparu depuis deux ou trois générations, notamment en Allemagne, au Danemark, réveiller l'OTAN, comme on le voit à travers le désir des Suédois et des Finlandais de rejoindre l'OTAN alors qu'ils avaient une solide tradition de neutralité. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe du fait de l'agression de Poutine renforce l'OTAN, en réalité. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce sommet de l'OTAN? Premièrement, je pense que les Européens de l'OTAN, même solidaires avec les États-Unis, qui sont évidemment le pilier du système, irremplaçable, même ceux-là ne veulent pas être tout à fait entraînés par les Américains contre la Chine. Donc ils ne veulent pas que l'alliance soit trop centrée sur les défis dans le monde de l'euro-atlantique. Traité de l'Atlantique Nord. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est est-ce que les Américains vont accepter qu'il soit dit que le renforcement des Européens, une affirmation européenne en matière de défense dans l'Alliance, est utile à l'Alliance en général. C'est très important sur ce point, de voir quels sont les termes du communiqué final sur l'acceptabilité ou même le soutien à une affirmation européenne dans l'OTAN.
En quoi cette défense européenne vient s'imbriquer justement au sein des alliés et de l'OTAN? Est-ce que la réponse de l'OTAN, elle est appropriée face à l'invasion de la Russie en Ukraine, selon
vous? Oui, les pays de l'OTAN, ils veulent aider les Ukrainiens à résister le mieux possible, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à la co-belligérance.
Quel est le bilan, selon vous, de cette guerre pour l'instant?
On ne peut pas le faire maintenant, le bilan. C'est trop tôt. Ce qui est clair, c'est que Poutine n'a pas réussi à mettre la main sur l'Ukraine en 48 heures, contrairement à ce qu'il avait dit à pas mal de visiteurs étrangers ces dernières années. J'ai l'impression que la machine russe, qui était tellement mauvaise au début et par ailleurs tellement brutale sur le plan humain et effrayante, cette machine s'est réorganisée pour contrôler l'Est. Mais l'issue n'est pas claire. Vraisemblablement, les combats vont finir par s'arrêter à un moment donné, mais malgré ça, je ne vois pas bien de solution, ni de négociation. Je ne vois pas sur quoi ça porterait. Donc ça peut se tourner à un gros conflit gelé, en fait.
Et ce qui surprend aussi, ce sont les répercussions mondiales de ce conflit ukrainien. Hubert Védrine, ça nous amène au titre de votre livre « Une vision du monde » où vous décrivez tous les changements géopolitiques de ces 25 dernières années. Vous parlez beaucoup de Russie, notamment, et vous pointez la responsabilité des Européens dans ce qui se joue maintenant, même si c'est à bout de le dire.
Je fais partie de ceux, comme aux États-Unis, l'école réaliste, qui considère qu'après la fin de l'URSS, réapparition de la Russie, Ukraine, etc., l'Occident n'a pas été très intelligent. Il aurait mieux fait d'impliquer beaucoup plus la Russie dans un ensemble. Ça n'a pas été fait. Beaucoup beaucoup d'erreurs. Et après, à l'inverse, l'Occident n'a pas été assez vigilant et pas assez dissuasif par rapport à la Russie, redevenue agressive et revancharde. Le point commun, c'est une sorte de, disons, de désinvolture arrogante de la part de l'Occident, qui, après son triomphe, parce qu'elle a ressenti comme un triomphe la fin de l'histoire, l'hyperpuissance, l'hubris, a considéré que ce que ressentaient les Russes, les Chinois, les Arabes, les Africains n'avait aucune espèce d'importance. Ça, c'est une erreur stratégique des Occidentaux, mais là, on n'en est pas là, puisque il s'agit simplement de résister, comme on le disait il y a un instant, à faire en sorte que la Russie ne puisse pas gagner en Ukraine. Mais il n'empêche que donc je vois pas bien de solution. Donc vous voyez, c'est pas totalement surprenant. La décision de Poutine d'attaquer est surprenante et absurde, à mon avis, même du point de vue russe, parce qu'il était sur le point d'obtenir une réflexion avec les Occidentaux sur l'organisation de la sécurité en Europe, qui n'a pas eu lieu avant. Donc les répercussions sont pas, c'était pas imprévisible, et les répercussions à partir du gaz, la dépendance au gaz, et d'autre part le chantage sur le blé, oui, c'est des répercussions sur une partie du monde. Pas le monde entier, mais une partie du monde.
Dans votre livre, vous expliquez hein, justement ces différents mandats de Vladimir Poutine et l'attitude des Européens aussi, des Occidentaux de manière générale, mais vous expliquez comment, durant les deux premiers mandats de Poutine, vous l'avez rencontré d'ailleurs à l'époque, quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, il a tendu la main aux Européens qui ont refusé, et que c'est probablement l'erreur des Occidentaux de ne pas avoir considéré cette main tendue lors des premiers mandats de Poutine.
Il y a erreur, c'est très discuté, parce que sous le coup de l'émotion légitime devant les horreurs...
Les gens
n'acceptent pas du tout cette idée qu'il y a eu la moindre erreur du côté occidental. Mais moi, je suis comme les vétérans de la guerre froide. Aux États-Unis, comme Kissinger, je pense qu'il y a eu des erreurs, mais plutôt des erreurs américaines. Il n'y a pas tellement d'erreurs européennes dans les années, justement, Yeltsin et après. C'est plutôt occidental. Bon. Donc, des erreurs d'un certain type dans les 15 premières années, d'un autre type, etc. Et là, pour le moment, ça, c'était débat pour historiens, vous voyez. On n'en est pas là, il faut aider les Ukrainiens à résister le plus possible. D'où l'acceptation du principe de la candidature ukrainienne, qui dit va pas dispenser l'Ukraine d'une négociation qui sera très longue, très compliquée, mais c'est un symbole qu'on ne pouvait pas refuser.
C'est important qu'elle fasse partie du club, même si officiellement...
Qu'elle soit acceptée comme candidate possible. Après, il y a la négociation, qui sera longue. Donc qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est là où le président Macron a vraiment raison, à mon avis, de relancer une vieille idée de François Mitterrand qui n'est pas fonctionnée, parce qu'à l'époque, pour aider Gorbatchev, il mettait l'URSS dedans. Mais là, c'est une idée sur la Russie, naturellement, qui est que sans attendre l'ouverture de nouvelles négociations d'adhésion, sans attendre l'aboutissement, c'est souvent très long, très compliqué. Il y a des pays qui attendent depuis des années, dans les Balkans, par exemple.
Qui du coup grincent des dents, d'ailleurs.
On va rassembler tout le monde dans une communauté politique. Et je me suis réjoui de lire qu'il y a un accord pour que sous la présidence tchèque tournante, il y ait une réunion de ce type à l'automne. Donc tous les Européens, quels qu'ils soient, seront dans cette entité. Je trouve que c'est très important, ça peut être une retombée très utile de cette horreur qu'est la guerre en Ukraine.
Autant vous décrivez justement ce réveil de l'OTAN, autant vous avez l'impression que Poutine a aussi réveillé les Européens. Dans ce livre, il est quand même souvent question aussi parfois de la mollesse justement de la réaction des Européens. Européens ne sont pas à la hauteur.
Non, c'est pas mollesse des réactions. Mais les Européens, ils ont cru vivre dans un monde imaginaire depuis 20 ou 30 ans. Ils étaient protégés par l'OTAN à leur demande. Et ils pensaient qu'ils allaient simplement créer une sorte de société idéale, etc. Sur tous les plans, avec les évolutions sociales, sociétales, en se désintéressant complètement du contexte géopolitique, en espérant pouvoir vivre dans un monde post-historique, post-identitaire, post-tragique, post-traumatique. Bon, ça c'est la vision dite bisounours. Ou alors, comme disait l'ancien ministre allemand Sigmar Gabriel, il avait dit « Attention, nous sommes des herbivores de la géopolitique dans un monde de carnivores géopolitiques. » Bon, donc tout ça c'est fini, boum. Donc c'est donc plus dur pour les Européens d'admettre ça. Mais c'est pas la mollesse, c'était une sorte d'attitude délibérément erronée. Mais ça c'est fini. Donc au moment où on en est, on va imaginer, organiser la suite. C'est un moment important à ce titre. Et pas que du point de vue, faut pas que ce soit fait uniquement du point de vue Washington, vous voyez. D'où l'importance des sommets de cette semaine, le G7, le sommet de l'OTAN, d'autre part le Conseil européen. C'est un moment très important, là.
On parle de guerre, on parle de choc économique. Il y a aussi un choc démocratique qui est en train de bousculer l'ensemble des États. On a connu ça et on connaît ça aussi en Belgique, hein, bousculement de nos institutions. La France est pour l'instant traversée aussi par une crise politique. Là aussi, ancien ministre français, vous êtes surpris comme ça que les institutions de la République se retrouvent peut-être dans une impasse ?
Je ne dirais pas une impasse parce que la constitution française est très souple. Il y a une époque où on pensait que la cohabitation était impensable et qu'il y aurait une crise de régime. Ça n'a pas été le cas.
C'est pas une crise de régime.
Il y a eu trois cohabitations. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une majorité, il y a un groupe qui est plus fort que les autres, donc il y a une majorité très relative. Je pense que les institutions vont montrer une certaine souplesse, que les Français vont être un peu comme tous les autres. Hein. Dans tous les pays démocratiques, c'est un peu compliqué, il faut négocier, il y a des coalitions partout. On le sait bien dans ce pays.
Vous n'allez pas battre le record de la
Belgique. Donc ce n'est pas du tout une crise de régime, c'est peut-être une crise politique momentanée, mais ce n'est même pas le cas. Je pense que c'est une sorte de fin de spécificité originale française sur ce plan. C'est une phase de, disons, de mutation politique, c'est pas une crise de régime. Et ça change rien d'ailleurs au pouvoir et aux compétences du président en matière internationale.
Hubert Védrine, on en revient pour terminer juste à votre livre qui décrit les grands bouleversements du monde, les perspectives aussi, hein, notamment sur la question climatique, écologique. Ça s'intitule « Une vision du monde ». Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faut à nos dirigeants là, maintenant, 2022 pour justement avoir une vraie vision du monde.
Ah ben les dirigeants européens, de gré ou de force, ils sont obligés d'intégrer le monde réel. Quoi.
Voilà, c'est fini les bisounours.
Il faut qu'ils expliquent aux peuples européens qui ne veulent pas de défense et tout ça, qui veulent du social, quoi, en gros. Il faut qu'ils expliquent aux électorats que l'Europe est obligée quand même de devenir une sorte de puissance. Même si ça fait peur à plein de gens, une puissance raisonnable.
C'est la claque de la réelle politique.
Pacifique. Pas pacifiste, mais pacifique. Donc il y a tout un énorme un travail de pédagogie politique qui doit être fait maintenant en accompagnement, en complément des décisions à prendre d'urgence pour gérer la crise immédiate, l'horrible affaire d'Ukraine, la question des céréales et tout ça, des décisions d'urgence là. Et après, il y a un gros travail de pédagogie pour corriger et dépasser des choses très sympathiques, mais enfin un peu illusoires, qui étaient racontées depuis 10, 20 ou 30 ans.
Merci Hubert Védrine pour cette